Bienvenue sur France Culture. Aujourd'hui, dans votre grande table des idées, un parcours croisé, celui des deux Georges, Sand et Eliot, toutes deux romancières, femmes du 19e, mortes à 4 ans d'intervalle. Elles laissent toutes deux une œuvre qui questionne la place des femmes, les mœurs et les conventions de leur époque, mais aussi les inégalités sociales. Hasard de la rentrée littéraire, deux de nos plus grandes historiennes leur rendent hommage en revenant sur des épisodes fondateurs de leur œuvre et sur leur personnalité. Michel Perrault, tout d'abord spécialiste du monde ouvrier et de l'histoire des femmes, auteur de Georges Sand à Nohant, paru au Seuil. Bonjour Michel Perrault.
Bonjour.
Et Mona Ouzouf, spécialiste de la Révolution française et de l'école, qui publie L'autre Georges à la rencontre de Georges Eliot chez Gallimard. Bonjour Mona Ouzouf.
Bonjour.
Georges et Georges, deux pseudonymes d'écrivains. Est-ce que c'est un hasard, Mona Ouzouf, ou l'une a influencé l'autre?
Bien sûr, l'aîné a influencé la cadette. C'est-à-dire que Georges Sand est l'aîné, Georges Eliot la cadette, et il se trouve que la cadette avait énormément lu Georges Sand, très jeune même. Mais des dizaines de, peut-être pas des dizaines, mais une bonne quinzaine de romans de Georges Sand, et elle l'admirait passionnément. Et puis, elle se met à écrire assez tard, il lui faut un pseudonyme, parce qu'elle est en concubinage avec un homme qui a déjà, à quelques encablures de là, une femme et des enfants. Certains légitimes, d'autres adultérins. Donc elle ne peut pas signer du nom de son compagnon mari. Et donc elle cherche l'abri d'un nom masculin, comme l'autre Georges. Du reste, ce qui est très amusant, c'est que l'une, Georges Sand, a emprunté la moitié du nom de son amant, Jules Sandeau. Elle a signé Sand. Et Eliot prend Eliot comme, parce qu'elle trouve ça euphonique. Et choisit Georges comme hommage à l'homme qu'elle aime. C'est un clin d'œil amoureux. Et en même temps, c'est une protection parce que leurs ouvrages ne seront pas jugés comme des ouvrages de dames. Et l'une et l'autre ont la même préoccupation.
Alors effectivement, quand Eliot commence à, Georges Eliot commence à écrire, Georges Sand est déjà une grande romancière. Elle est aussi l'une des auteurs les plus lus en Angleterre. Donc on voit cette fois-ci, en tout cas, les œuvres circuler plus facilement d'un côté de la Manche vers l'autre. Michel Perrault, de quoi ces identités de romancière, de quoi les protégeait-elles?
Ah bien, elle voulait d'abord écrire, être des écrivains, vraiment. Elle voulait pas être des femmes auteurs, non. Du tout. Hein, parce que c'était très dépréciatif à l'époque. Et puis d'autre part, elle voulait gagner leur vie. C'était très important pour George Sand, je pense pour George Eliot aussi. Et au fond, pour les femmes de leur milieu, c'était pas tellement facile de trouver un travail. Hein. Et écrire, piocher, comme disait Georges Sand, c'est une manière d'être absolument indépendante. Je n'ai jamais eu de maître, même en amour, disait Georges Sand. Et cette idée d'indépendance fondamentale, je crois que les deux Georges la partagent.
Oui, parce qu'elles entretenaient toutes les deux presque une tribu africaine derrière elles. Les enfants et des familles qui étaient, dans le cas d'Eliot, recomposées selon des normes un peu extravagantes. Puisque Lewis et elle entretenaient tous les enfants que Lewis avait fait et que l'ami de Lewis avait fait avec sa femme légitime. Tout ça est un peu extravagant à l'époque victorienne, dans un pays plus cadenassé encore que la France.
Mais elles aimaient l'une comme l'autre, Michel Perrault, jouer de cette identité masculine, de cette fiction aussi. D'ailleurs, vous le racontez, Sand, elle voulait faire sienne la liberté des hommes et elle s'appropriait leurs codes vestimentaires aussi, les codes amoureux, et ça va jusqu'au prénom, au choix de ce prénom pseudonyme. Hein.
Bien sûr. Au fond, ces femmes qui étaient inégales, nécessairement, étant donné la société, ce qu'elles voulaient, c'était la liberté et l'égalité. Oui. Et comment conquérir l'égalité? Être un homme, faire comme un homme, c'était un moyen très important. Pensons au costume, par exemple. Ces femmes qui veulent circuler... Est-ce que George Eliot aimait le costume masculin? Ça,
non,
je sais pas du tout.
Ça n'était pas dans ses projets.
Oui. Alors Sand, oui, absolument.
En revanche, Eliot s'amusait beaucoup en pensant, elle a traduit à 23 ans les œuvres de David Strauss, La vie de Jésus de David Strauss, et elle s'égayait toute seule en pensant à ce respectable savant allemand quand il allait apprendre qu'il était traduit par le spécimen, dit-elle, le plus déshonoré de l'espèce, en Angleterre du moins, c'est quelque chose comme ça, son commentaire. Ça l'amusait beaucoup, et Sand s'amusait beaucoup de penser que la baronne du devant, sa belle-mère, était ravie du pseudonyme parce que, dit-elle, ça préservait de toute tache son nom immaculé. Donc, toutes les deux s'égayaient quand même dans le,
ah oui,
la
oui,
pseudonymie.
Oui, tout à fait. Et George Sand parle toujours d'elle-même quand elle est auteur au masculin. Il, voilà. Quand elle est Aurore, c'est différent. Dans sa correspondance privée, souvent, le elle revient. Mais autrement, elle est il.
D'ailleurs, et vous avez dit qu'elle voulait toutes les deux devenir deux écrivains et pas deux écrivaines.
Tout à fait, absolument.
Mona Ozouf, dans cette traversée de la Manche à laquelle vous nous invitez, à la rencontre de George Eliot, Mary-Anne Evans, de son vrai nom, 200 ans après sa naissance, il y a quand même quelques paradoxes ou curiosités. Elle était en couple, vous l'évoquiez, avec un homme marié, George Henry Lewis. Elle était aussi très influencée par le catholicisme. Elle a d'ailleurs commencé par dévorer...
Non, pas par le catholicisme, par l'évangélisme.
Par l'évangélisme.
Oui.
Elle a commencé quand même par lire des penseurs comme Pascal.
Oui, ça aussi, c'est quand même énorme. Elle a reçu Pascal comme prix de français dans une pension des Midlands à 13 ans. Et elle l'a lu. L'énergie intellectuelle de cette femme est absolument extraordinaire. Mais on pourrait dire que toutes les deux sont des agnostiques ou des athées, bon là on pourrait discuter longtemps, qui sont des âmes religieuses, toutes les deux. Sand a eu un épisode de catholicisme sacrificiel, pour commencer, et Eliot a eu un épisode de méthodisme qui a duré assez longtemps et qui d'ailleurs se voit dans son œuvre, qui est peuplée de pasteurs. Les pasteurs de l'Église établie et les pasteurs dissidents. Donc la religion a beaucoup compté. Cependant, elles s'en sont toutes deux détachées. Et je dirais que l'une est plus anticléricale que l'autre, c'est Sand.
George Sand, bien sûr.
Et l'anglaise est en réalité plus athée. Parce que l'espérance d'une autre vie n'a jamais quitté Sand de sa vie, elle le dit. Tandis que Eliot avait totalement rompu avec l'idée d'une immortalité de l'âme et d'un autre monde. Donc c'est assez curieux, cette nuance entre les deux.
Oui, mais c'est un petit peu la situation politique de la France,
bien sûr.
Et les relations avec la papauté, notamment, évidemment, à l'époque du Second Empire, quand l'empereur soutient d'abord la nationalité italienne contre le pape, et ensuite prend position pour le pape contre les républicains et les nationalistes italiens.
Oui.
Alors, George Sand est devenu très anticlérical, au point que son œuvre a été mise à l'index par l'Église. Et autre remarque, ses enfants, Maurice et Lina, ont fait baptiser leurs enfants dans la religion protestante,
oui,
à laquelle ils se sont convertis. Elle, pas du tout. Donc les relations avec la religion sont en effet très intéressantes, proches et différentes.
Proches et différentes, oui.
On va écouter, Mona Ozouf, un extrait de Middlemarch de George Eliot, lu par la comédienne Agnès Jaoui.
Miss Brooke était belle, de cette beauté que semble mettre en valeur la simplicité des vêtements. Elle avait la main et le poignet si délicatement modelés qu'elle pouvait porter des manches dépourvues d'ornements, pareilles à celles que les primitifs italiens mettent à la Vierge Marie. Et son visage, autant que sa stature et que sa manière d'être, paraissait plus noble encore à cause de la discrétion de sa mise. À côté des modes provinciales, elle faisait ainsi songer à la grandeur touchante d'une belle citation de la Bible ou d'un de nos vieux poètes, insérée dans un paragraphe du journal quotidien.
Comment vous qualifieriez, Mona Ozouf, l'œuvre de George Eliot, ses romans, les romans de George Eliot?
Écoutez, ce qui est, à mon avis, particulièrement attachant dans les romans de George Eliot, c'est d'une part la densité des entours, la densité des villages, des bourgs, l'espèce de porosité complète entre le privé et le public. Au fond, il n'y a pas de distance, de différence, et il y a dans toute la société une sorte de guette suspicieuse des agissements privés de chacun. Donc tout ça fait un réseau extraordinairement serré, avec une foule de personnages secondaires et une observation sociologique qui est extrêmement fine et intense. Donc il y a ça, il y a la richesse, et puis en dehors de la richesse, il y a la complexité. Parce que ce qu'elle peint, ce sont des êtres qui sont tiraillés entre des fidélités contradictoires, qui ont des conflits de valeurs parfois très douloureux à arbitrer. Et au fond, c'est la description de ces arbitrages qui sont ceux que nous avons tous, qu'elle décrit, je trouve, de façon merveilleuse. Donc, richesse, densité, complexité, personnage de femme inoubliable, voilà ce qui est très attachant, je trouve, dans son œuvre.
romancière du singulier, écrivez-vous, c'est aussi une grande écrivain de la société victorienne. Est-ce que sa vie et la manière dont elle l'a menée posent encore question à vos yeux aujourd'hui ?
Elle ne pose nullement question au regard de nos convictions féministes, parce que son credo féministe, c'est tout simplement le nôtre. Liberté pour la femme de disposer de son corps, égalité des capacités intellectuelles chez l'homme et la femme, et, j'ajoute, conception extraordinairement révolutionnaire de la filiation, parce qu'elle n'assigne même pas les sentiments, les goûts, les fonctions à un sexe particulier. Elle a écrit tout un roman pour montrer comment un célibataire taiseux et, oui, renfrogné, fait sienne une petite fille qui lui tombe du ciel et l'élève avec des tendresses maternelles. Elle décrit une filiation qui est une filiation choisie et pas une filiation reçue. Au fond, on a envie de conseiller à tous les manifestants de la Manif pour tous de lire George Eliot sur la filiation. Voilà, c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire.
Et Michel Perrault, à toutes les féministes d'aujourd'hui, quelle que soit leur chapelle, de lire aussi George Sand. Quelle féministe était-elle ?
Ah, elle ressemble beaucoup à George Eliot. Dans des quantités, ce que vient de dire Mona, on pourrait l'appliquer à George Sand, y compris, bien sûr, sur sa conception de la famille. Elle avait une conception de la famille élargie, où les enfants adoptés, les enfants naturels, circulaient avec une parfaite aisance. Hein. Tout ça n'avait vraiment aucune importance, mais elle tenait beaucoup, par ailleurs, aux enfants. C'est peut-être une petite chose qui la différencie de George, je ne sais pas. Comme elle disait, je suis une passionnée de la progéniture. Et pour elle, c'était une manière de lutter contre la mort, hein, contre le temps qui passe, qui détruit tout. Et les enfants, c'est ce qui sera après nous. Et c'est peut-être, dans une vie compliquée, ce qui l'a toujours aidé à rebondir. C'était très important.
Oui, mais c'est vrai.
Vous aviez posé une question sur l'œuvre. Moi, je voudrais juste dire pour George Sand que, à mes yeux, dans son œuvre, la correspondance et l'autobiographie, Histoire de ma vie, sont peut-être les fleurons. Oui. C'est vraiment absolument remarquable.
26 tomes de cette correspondance que vous avez relue pour l'occasion, Michel Perrault. George Sand, qui est l'auteur d'une centaine de livres, et parmi ses romans peut-être les plus connus, Indiana, Consuelo, La mare au diable, La petite fadette, ou encore Mopra. Michel Perrault, entre George et Sand et vous, on peut pas dire qu'il y ait eu un coup de foudre tout de suite, peut-être pas plus que pour Baudelaire. Écoutez cet extrait d'un film de Michel Rosier, film sorti en 1973, Georges qui ? C'est Baudelaire parlant de George Sand.
Charles Baudelaire.
Elle est lourde, elle est bête, elle est bavarde. Elle a dans les idées morales la même profondeur de jugement et la même délicatesse de sentiment que les concierges et les filles entretenues. Que des hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. Elle est sourde, une grosse bête, mais elle est possédée. C'est le diable. Je crois que c'est le diable qui la persuada de se fier à son bon cœur et à son bon sens, afin qu'elle persuada toutes les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. Elle n'a jamais été une artiste. Elle a le style coulant cher aux bourgeois. Pensez, cette stupide créature, sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter une pique.
Vous parlez, Michel Perrault, d'une découverte progressive et en partie fortuite de George Sand, que vous appelez parfois la bonne dame de Nohant, et dont vous jugiez à l'origine les romans un peu printanier, un peu champêtre, un peu insipide, hein, pour le dire franchement. Elle ne vous a pas convaincu tout de suite.
Mais je ne la lisais pas. Hein. Et en plus, il y avait sur sa réputation après-guerre, il faut bien voir, l'idée que Vichy avait célébré George Sand, ce qui est vrai d'ailleurs. Vichy, la terre ne ment pas, n'est-ce pas ? Donc George Sand et Agricole Perdiguier, qui était son grand ami, les mémoires du compagnon de Agricole Perdiguier ont été rééditées sous Vichy, avec une superbe préface d'ailleurs de Daniela Lévy. Tout ça est assez étrange. Et pour toutes ces raisons, personnelles et politiques, très vagues et pas du tout assurées, je ne la lisais pas. Je la méconnaissais complètement et de ce point de vue, j'ai participé à la dévaluation qui a suivi sa mort et dont le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, hein, Baudelaire, est tout à fait significatif. Il y aurait énormément à dire sur ce texte. C'est la vache laitière de notre littérature. Hein, disait-il encore. Voilà, alors c'est lourd tout ça.
Même Flaubert, qui est devenu un de ses grands amis de cœur, et qui pleurait comme un veau,
quand
dit-il,
est
à l'enterrement de Sand, oui, a des textes extrêmement durs pour, oui, pour Sand.
Absolument.
Dont
absolument.
Les livres coulent d'elle comme le sang et le lait.
Voilà, c'est toujours comme ça. La métaphore du lait, d'ailleurs. Toujours.
Métaphore liquide.
La vache et le lait. C'est ça, absolument. C'est toujours ça, absolument.
Vous vous dites qu'elle était aussi d'un âge qui n'avait pas grand-chose à dire aux filles de Simone de Beauvoir, dont vous vous revendiquiez.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Imaginez les années 50, imaginez 49, le deuxième sexe. Simone de Beauvoir n'aime pas George Sand, d'ailleurs, elle n'en dit pas grand bien, hein, ce en quoi je la suis plus du tout aujourd'hui, naturellement, sur ce point. Oui, George Sand n'était pas une héroïne pour nous, pas du tout, pas du tout.
Alors qu'aujourd'hui, vous parlez des deux Georges, Eliot comme Sand, comme deux féministes, plus qu'avant l'heure.
Ah, bien sûr, oui, oui. Bien sûr. Féministe, elle ne l'aurait pas dit elle-même. D'ailleurs, le mot n'existait pas. Il faut bien voir que féminisme n'existe que depuis les années 1880. Féminisme, ça a d'abord voulu dire la maladie des hommes efféminés. Hein, c'est-à-dire vraiment très péjoratif de toute façon. Ces femmes-là ne connaissaient pas ces noms-là. Mais féministe, à nos yeux, ô combien, ô combien.
Alors c'est une George Sand à Nohant, dans sa maison familiale où elle a vécu une large partie de sa vie, que vous nous racontez. Vous nous racontez, Michel Perrault, ce lieu dont elle avait fait son oasis, toujours animé, presque un phalanstère, lieu de passage pour des écrivains comme Balzac, Flaubert, tiens le revoilà, ou Théophile Gautier, des peintres aussi comme Eugène Delacroix et des musiciens comme Liszt ou Chopin. Extrait, et ce sera le dernier, de George Qui, le film de Michel Rozier, avec Anne Wiazemski en George Sand et Bulogier, son ami. Ces dames tiennent salon et réfléchissent à comment aborder Frédéric Chopin et le convaincre de rester.
Votre musique, depuis longtemps déjà, m'enchante et me console. Jouez, jouez pour moi seulement. Et puis, venez habiter chez moi. Composez dans mon lit. Dormez dans mon piano. Non, c'est pas ça. Dormez dans mon lit. Composez sur mon piano.
Mais non, viens.
Non,
viens. Pour lui plaire, je crois qu'il faut lui dire tout à fait le contraire.
Par exemple?
Par exemple, Frédéric, les musiciens m'ennuient. Surtout ceux qui sont en avance sur leur temps. Bien alors, vous m'avez l'air très mal portant.
Oui.
Ou bien alors, surtout ne mettez jamais les pieds chez moi, vos mines d'enfant malade, vos airs là. Non, vraiment, je ne les supporte pas. Je ne ferai pas un pas. C'est très simple. Et à ce moment-là, tu verras, il se précipitera vers toi.
Je crois que c'est bien. Je vais lui écrire. J'écris. On vous adore. Et je signe, Georges.
Quelques notes des Nocturnes de Chopin pour apaiser peut-être Baudelaire, si jamais il les entend aujourd'hui, Michel Perrault. Nohant, ce lieu qui vous a particulièrement attaché, raconte beaucoup de la personnalité de sa propriétaire, George Sand, mais aussi du projet qu'elle en avait, qui était presque un projet communautaire.
Oui, non, c'est par Nohant que j'ai connu George Sand. C'est cette maison qui m'a complètement séduite, d'autant plus que la première fois que je l'ai visitée, c'était avec sa petite fille, hein, Aurore Loth, qui allait mourir 2 ans après, et qui était une très vieille dame, extrêmement distinguée, et c'était extraordinaire, vraiment. Donc j'ai été séduite. Bon, voilà. Et cette maison, après, alors naturellement, dans les lettres, dans les correspondances, tout ça, j'ai vu l'importance vitale, existentielle que ça avait pour elle. Et comme projet, en effet, faire un lieu de Nohant, un lieu ouvert, à la fois familial, c'est vrai, hein, mais surtout ouvert aux amis. Et il faut voir que l'amitié, pour George Sand, c'est aussi peut-être plus important que l'amour, même si ça, l'amour a beaucoup compté pour elle aussi. Et par conséquent, il y a toujours cette invitation répétée, venez, venez, venez. Hein, en minimisant le trajet qui restait quand même terrible. Il faut, au début du 19e siècle, 3 jours pour aller à Nohant. Bien entendu, les routes s'améliorent, notamment sous la Restauration, et ça réduit. Et puis, il y a le chemin de fer. À partir de 1843, on peut aller jusqu'à Orléans, voiture, etc., etc. Et en 47, le train à Châteauroux. Et alors là, il suffit d'envoyer la voiture de Madame Sand pour aller chercher les amis. Tout de même, au meilleur, c'est-à-dire vers la fin, il faut partir vers 9 heures de Paris et on arrive quand même pour un dîner relativement tardif, 8 heures à Nohant.
C'est peut-être parce que c'était si loin que, du coup, les invités y restaient comme Chopin pour de longues périodes, des longs moments, à la fois de création et de partage. Mauda Ozouf, est-ce que vous avez, du coup, vous aussi répondu à l'appel de George Sand, venez, venez, est-ce que vous êtes allé dans cette maison de Nohant,
oui.
Écouter les fantômes?
Oui, mais je n'ai pas la même histoire avec Sand que Michel, parce que moi, Sand, pour moi, Sand était une icône de ma famille et de la maison, parce qu'elle s'était, comme vous savez, beaucoup intéressée aux légendes du peuple et aux œuvres collectives, aux œuvres qui ne portaient pas de nom d'auteur, mais qui avaient été portées par le génie d'un peuple. Or, il se trouve qu'elle avait énormément admiré ce qui était la Bible de mon enfance, le Barzaz Breiz, qui était un recueil de poésie populaire qui avait été collecté par Ersard de la Ville Marquée. C'était un livre qui trônait dans la bibliothèque. Et ma mère m'avait parlé de Sand avec admiration et m'avait dit, voilà, un écrivain français qui a su reconnaître notre génie poétique breton. Donc elle était pour moi une icône. Et par ailleurs, j'avais beaucoup lu dans mon enfance les romans rustiques. Fadette, Le Champi, La Mare au Diable, tout ça, je l'avais lu vers 10-12 ans. Donc, j'avais pas de recul. Mais il est vrai qu'ensuite, j'ai participé au dédain qui s'est abattu sur son œuvre. Du reste, le dédain a été le même pour Eliot, y compris en Angleterre, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale a refait vivre des Eliotistes en Angleterre, mais en revanche pas du tout en France, où tout le monde a oublié que Proust disait d'elle qu'il ne pouvait pas lire 2 pages d'elle sans pleurer, ce qui est quand même un label.
Oui, absolument.
Est-ce que ça fait pas partie des points communs qu'on peut souligner sans trop chercher les ressemblances entre les deux Georges, Mauda Ozouf, leur rapport à la terre, leur intérêt aussi pour le monde rural qui les entoure, oui. George Eliot avec les Midlands anglais, la paysannerie du Berry pour George Sand. Elles avaient cet ancrage très fort aussi.
Oui, et puis elles avaient cette capacité de capter la voix populaire. Et ce qui est très frappant dans les romans d'Eliot, mais aussi dans les romans de Sand, c'est qu'elles ont le même mépris pour la campagne chimérique du XVIIIe siècle, qui multiplie les agriculteurs vertueux ou même les bergers enrubannés avec des houlettes et des moutons avec des rubans roses au cou. Enfin, tout ça, c'est l'objet de leur mépris commun. Et elles avaient une vraie intelligence de la parole populaire qui est à la fois exubérante, pleine d'images et en même temps sentencieuse. Il y a de ça dans les deux œuvres. Et par ailleurs, des personnages jumeaux, des personnages de paysans jumeaux qui sont, représentent une sorte de religion du travail, honnêteté, vertu, compréhension de la nature. Oui, ça existe chez les deux.
En lisant leur livre, Michel Perrot, on comprend les lignes de tension qui traversaient ces deux sociétés à cette époque-là. On comprend les transformations aussi qui étaient en train de se jouer en Angleterre, dans cette Angleterre victorienne, comme en France. Vous saisissez ça à travers leur roman ?
Oui, tout à fait. Peut-être l'industrie et la tension de la révolution industrielle est-elle plus présente chez George Eliot, ce qui est normal.
C'était,
il y avait une avance plus grande, et puis le lieu où habitait George Eliot était peut-être plus près aussi du monde usinier,
Ce sont quand même deux descriptions de la transaction ou de la transition.
Oui, tout à fait.
Elles sont dans des mondes toutes les deux qui sont en train de se transformer complètement. C'est presque comparable au nôtre aujourd'hui. C'est que la révolution numérique est en train de nous faire entrer dans un monde totalement nouveau. Et là, la révolution industrielle ou démocratique faisait entrer ces femmes dans un monde inédit.
Tout à fait.
Et ça se reflète dans les deux œuvres.
C'est ce que George Eliot appelait cette histoire incarnée, cette envie d'écrire une histoire incarnée.
Oui. Oui, parce que, oui, là-dessus, il y a beaucoup de choses d'Eliot sur sa capacité d'artiste et sur ses devoirs d'artiste, et elle estimait que le devoir d'artiste était de dire la vérité. Et cette vérité était forcément singulière. Bon. Du reste, son roman le plus historique, Félix Holt, qui est le premier roman où, au fond, apparaît la classe ouvrière dans l'œuvre d'Eliot, mais il y a autre chose, c'est que Eliot est un des premiers romanciers à faire entrer le travail dans ses intrigues. Et donc, dans ce roman Félix Holt, elle raconte une bataille électorale qui a quantité de conséquences sur la vie privée, mais elle se préoccupe peu, par exemple, de donner le résultat des élections, qui occupe tout le roman. Autrement dit, la politique, au jour le jour, l'intéresse probablement moins que George Sand. Elle est moins impliquée dans la politique du journal, si vous voulez. Le journal n'est pas sa prière du matin. Tandis que George Sand est impliqué, malgré tout, dans les nouvelles.
Oui, absolument.
C'est la différence.
Elle a d'ailleurs été fondatrice de journaux,
voilà.
George Sand,
oui.
L'éclaireur de l'Inde, le travailleur de l'Inde, qui n'a pas duré longtemps. Mais elle pensait qu'il fallait doter la province d'organes de presse indépendants de Paris, qu'elle considérait tout de même comme un peu dédaigneux pour la province. Oui, George Sand s'est converti à la République dans les années 1830, par là. Elle n'en a plus démarré. Elle est restée une républicaine convaincue toujours. Et puis, elle est devenue socialiste. Elle est devenue socialiste à la mode du 19e, évidemment. Son grand homme, c'est Pierre Leroux, qui est très intéressant, bien que méconnu, tout à fait lui aussi. Et bien que n'ayant pas approuvé la Commune, ce qui est parfois un conflit à son égard, un reproche à son égard, elle est morte en disant « Je suis restée rouge dans mon cœur ».
Michel Perrot, vous êtes George Sand, Mona Ozouf, vous êtes George Eliot. Ces deux-là ne se sont jamais rencontrés, mais si elles se croisaient, si elles s'étaient croisées, de quoi est-ce qu'elles auraient discuté? Si vous deviez les incarner, vous pourriez refaire ce dialogue ou imaginer ce dialogue entre elles?
Je pense qu'elles auraient parlé des pouvoirs du roman, parce que elles étaient toutes les deux des conteuses. C'est du reste ce qui les fait échapper aux prêches, parce qu'on les a beaucoup comparées toutes les deux comme des femmes qui s'invitent dans leur roman, c'est-à-dire qui ont des commentaires à nous faire partager.
Chers lecteurs, chères lectrices.
Et qui ont été d'ailleurs également méprisées comme deux bavardes, deux prêcheuses, deux enquiquineuses.
Alors qu'est-ce que George Eliot aurait dit à George Sand?
Qu'est-ce que George Eliot aurait dit à George Sand? George Eliot a dit beaucoup à George Sand. Elle a, par exemple, dit à ses amis, vous allez me parler de George Sand. Avec ses amis, elle échangeait les livres de George Sand. Et elle leur disait, attention, on va parler de George Sand, mais surtout n'en dites pas de mal. Parce que si vous en dites du mal, on va se brouiller. Elle est my divinity. Donc, elle aurait accueilli George Sand avec émerveillement pour elle. George Sand, c'était un peu ce que Henry James dit des romans. Dans, il faut qu'il y ait du feu dans la cheminée. Pour Eliot, George Sand raconte des histoires où il y a du feu dans la cheminée, où il y a des passions chez les êtres, et où les passions, choses merveilleuses, dites par George Eliot, même la, comment dire, la tolérance à l'égard du lien marital, qui est admiré par, chez Sand par Eliot, la tolérance du lien marital, le côté un peu, comment dire, léger des mœurs françaises, est un avantage, dit-elle, parce qu'elle donne aux existences féminines plus de profondeur et plus de variété. Quel propos incroyable,
oui.
Alors que George Sand passe pour une sulfureuse.
Oui, Michel Perrault, Mona Ozouf, avant les rendez-vous de Blois, où vous étiez, plus de 400 historiennes ont appelé à mettre fin à la domination masculine dans votre discipline, l'histoire. Une féminisation en cours, mais à pas lents, surtout dans les lieux de pouvoir, les cercles de décision, directions de publication chères ou établissements prestigieux, comme le Collège de France. Vous pouvez peut-être pas changer l'ordre des choses, là tout de suite, immédiatement, mais est-ce que le fait d'écrire aussi sur ces femmes qui ont fait l'histoire, George Eliot comme George Sand, à travers le roman, mais aussi à travers leur conduite, leur attitude, et les textes qu'elles ont pu laisser, les regards qu'elles ont portés sur leur époque, redonner de la place aux femmes dans l'histoire, c'est déjà un pas de plus vers cette égalité, dans cette discipline?
Il me semble que oui, il me semble que les remettre en évidence, dire ce qu'elles ont été, ce que leurs combats ont été, c'est très très important. Voir les difficultés qu'elles ont eues, car on a évoqué les côtés plutôt positifs, mais c'était pas drôle tous les jours, elles ont souffert aussi. Ça a été difficile, oui, je pense que ça vaut la peine, et puis... Peut-être en avait-on le désir aussi. Et le désir, c'est important. Le désir, c'est important chez Sand, comme chez Eliot, je crois.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis moi, j'ajoute que ça nous fait quand même comprendre l'anachronisme qui préside parfois aux études sur nos deux héroïnes, qui souligne parfois leur timidité politique, existentielle, leur féminisme parfois timoré, un peu trop paisible. Les deux ont eu droit à ce procès qui me frappe, moi, par son anachronisme extraordinaire. Parce qu'imaginez la société dans laquelle ces femmes vivent. Imaginez le côté, la fraîcheur, la liberté de leurs propos à l'époque. Donc je trouve que une histoire qui est souvent à mes yeux un peu trop justicière pour le passé, qui aime s'adonner à la réfection du passé selon les normes qui sont les nôtres aujourd'hui, est souvent une histoire très injuste, et remettre ces deux femmes en pleine lumière corrige ce défaut d'anachronisme.
Oui, mais il faut dire aussi que le féminisme leur a quand même rendu leur place, beaucoup. Hein. Les femmes sont certes divisées à leur égard, mais c'est tout de même au mouvement féministe, en tout cas pour Sand, que l'on doit vraiment leur redécouverte.
Donc à ces 400 historiennes qui signent cet
bien
appel,
sûr.
Vous dites aussi aller conquérir votre place, aller la chercher.
Absolument, absolument. Absolument, elles ont raison de prendre leur sort en main et de dire ce qu'il en est dans l'inégalité persistante dans notre société, absolument.
Merci beaucoup Michel Perrault, George Sand, Anne Ohan, votre ouvrage vient de paraître aux éditions du Seuil, et merci beaucoup à vous Mona Ozouf, l'autre George, à la rencontre de George Eliot, apparu chez Gallimard. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Laura Dutèche-Pérez qui a préparé cette émission, avec Maya Neskovic qui l'a programmée, à Henri Leblanc, Oriane Delacroix, Jeanne Copé et Jordan Joseph, à la réalisation aujourd'hui Alexandra Candy-Longuet avec Emmanuel Armin. Très bel après-midi à tous sur France Culture.